juste comme on a eu ce matin Mgr Athanasios qui était chargé de la représentation de l'Église de Grèce auprès de l'Union européenne, Père Sorine fait la même fonction pour l'Église roumaine. Il est directeur de la représentation de l'Église orthodoxe roumaine auprès des institutions européennes. Il est en même temps un double emploi. Il est professeur de théologie dogmatique à la faculté de théologie orthodoxe Bucarest. On m'a d'ailleurs dit qu'on a ici entre nous des représentants des trois grandes facultés de théologie de la Roumanie, de Cluj et de Sibiu. Voilà. Le père Severu a étudié à la faculté de théologie de Iași en Roumanie. Il a un master en théologie de la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Et aussi, il a fait son doctorat avec une thèse sur l'ecclésiologie trinitaire du père Dimitri Stanudoué. Et comme on sait qu'il y a un très grand intérêt pour le père Stanudoué ici, j'ai juste, c'est pour cette raison qu'on l'a invité de nous parler de l'anthropologie de communion du père Stanislaoui. Père Sorine, à vous.
Merci beaucoup pour l'invitation et l'introduction en fait. C'est le mien qui fait comme ça? Il est très sensible, le micro. Donc, comme vous avez déjà vu, le métropolite Athanase, il a essayé de faire et de décrire quelques aspects de l'anthropologie orthodoxe. Et je veux vous dire aussi qu'en général, quand on parle de l'anthropologie orthodoxe, c'est la théologie de l'homme qu'on fait en orthodoxie. Donc il y a aussi des aspects sociaux et d'autres aspects, mais les théologiens parlent plutôt de la théologie de l'homme. C'est ça l'anthropologie du point de vue dogmatique. Et je vais vous donner un petit avertissement. Donc, comme le père Stanislaoui, quand il donnait des cours à la faculté de théologie de Bucarest, on dirait de lui que c'était le meilleur antidote contre l'insomnie. Donc presque tous les étudiants dormaient à son cours s'il lisait les cours. S'il parlait librement, c'était autre chose. Mais je m'excuse, je ne peux pas parler librement parce que c'est aussi une barrière linguistique. Je veux lire mon texte, mais vous vous sentez libre de faire tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Le père Dumitru Stanislaoui est le plus grand théologien roumain. Il appartient à un peuple qui a dû sans cesse réaliser un équilibre entre son espace tragique et fécond en même temps, de carrefour entre l'Orient, l'Occident, le monde slave, le monde grec, où la latinité et l'orthodoxie, comme vous savez bien, le peuple romain, c'est le seul peuple latin et orthodoxe du monde. Mais il appartient en même temps à une époque de fort éblouissement théologique. Et ça suffit juste de penser ici en Occident à des très grands noms de théologiens. Il est né en 1903, il est passé aux cieux en 1993. Si vous pensez par exemple à Yves Congar, c'est presque la même époque, 1904-1995. Si vous pensez à Henri de Lubac par exemple, qui est mort en 91. Si vous pensez je ne sais pas, Karaner, il est né en 1904 et c'est presque la même époque. C'est une époque vraiment d'éblouissement théologique, en Occident et en Orient aussi. Prêtre marié et professeur de théologie, Stanislaoui pourtant n'a pas été très gâté par la vie parce qu'il perd deux de ses trois enfants. Il est emprisonné pendant 5 ans à cause de ses convictions spirituelles, comme c'était décrit dans son rapport, et doit subir toutes les privations imposées par le régime communiste. Et la liste peut continuer. Cependant, malgré cette existence marquée par des moments très difficiles, il réalise une œuvre théologique d'une ampleur considérable. La production théologique d'Estonilaï compte des dizaines de livres et des centaines d'études théologiques. Dans son œuvre monumentale, il s'est intéressé à presque tous les chapitres qui peuvent constituer l'objet d'un traité de théologie orthodoxe. Il écrit une dogmatique de l'Église en 3 volumes, un traité de spiritualité qui vient d'être publié chez Serres l'année passée, en 2011, sous le nom de la théologie ascétique et mystique de l'Église orthodoxe. En outre, il est l'initiateur de la traduction en roman de la Philokalie, 12 volumes entre 1946 et 1992, qui est un vaste recueil de textes patristiques centrés surtout sur la prière, choisis avec soin, accompagnés d'amples explications. Et ça, c'est aussi une chose qui... Ceux qui ont eu la chance de lire quelque chose de celui-là, et même les traductions qu'il fait, vous allez voir que sur une page comme celle-ci, par exemple, c'est le texte d'un père qui est comme ça, et tous les commentaires qu'il fait de Stanislaï est comme ça. Donc, il a vraiment des amples commentaires. Et si vous lisez, par exemple, la traduction française de Maxime le Confesseur en bigois, vous allez voir que la partie la plus importante, ce sont les commentaires de Père Stanislaï. Les grands thèmes de son œuvre sont les grands thèmes de la foi chrétienne, c'est-à-dire le monde comme don, sacrement et langage plasticisé de l'amour trinitaire, la déification comme dynamique de la vie divine humaine communiquée par le Christ dans l'Église, l'Église comme lieu ou laboratoire où l'on fait l'expérience ou où on avance vers la résurrection, la personne humaine comme permanent mystère et nouveauté permanente, appelée à la vie éternelle de Dieu, la sainteté comme vocation et accomplissement de l'humain, les dogmes de la foi comme des vérités qui libèrent du déterminisme de la nature déchue et corrompue, la prière comme expérience de la liberté et de l'amour, plus forte que la mort et le temps et l'espace qui séparent les personnes. Quant à son style, il n'est pas linéaire ou systématique, mais cyclique, d'où la difficulté de la compréhension. De plus, la logique antinomique est paradoxale, qui ne veut pas séparer les composants du mystère en préférant plutôt les maintenir en tension, et celle qui abonde dans ses écrits. La phrase ou sa phrase est longue, parfois compliquée, et suit une logique allemande. Mais le vocabulaire, tout particulièrement dans ses traductions, se distingue à la fois par la beauté sémantique et la simplicité rustique. Il parlait plusieurs langues, dont le meilleur c'était l'allemand. Et donc, sa phrase est vraiment longue. Vous allez avoir des parties comme ça sur une seule phrase. Et c'est pour cela qu'on a attendu sa traduction dans d'autres langues pour couper un petit peu sa phrase. Une des raisons importantes qui serait à l'origine de son immense création théologique est à chercher dans la mise en opposition de la théologie dialectique qu'il connaît pendant ses études en Allemagne, et de la théologie de Grégoire Palama, auquel il consacre un de ses premiers livres de 1938. Le passage suivant tiré de Stanislaï est révélateur à cet égard, et je cite « Dans la théologie dialectique, j'ai trouvé l'image d'un Dieu séparé et distant, tandis que dans la théologie de Palama, j'ai trouvé un Dieu qui vienne à l'homme, qui se communique par ses énergies tout en restant incommunicable dans son être. » Et en suivant constamment cette ligne, notre auteur veut donner à la théologie un fondement spirituel. Il veut articuler dans une synthèse cohérente la théologie et la spiritualité. L'œuvre du théologien romain peut être considérée de ce fait comme un approfondissement spirituel de la théologie, comme le développement d'une théologie de l'amour capable d'arracher l'humanité d'aujourd'hui à sa solitude angoissée. Un amour créateur qui jaillit du cœur même du mystère trinitaire, comme le dit Olivier Clément. La koinonia trinitaire fonde la communion du créateur avec sa créature et la communion des hommes entre eux. C'est une théologie de l'amour comparé par Karl Lehmann avec la théologie de l'espérance de l'Occident. Une conséquence immédiate de cette méthode est que son expérience comme théologien n'est pas un décalage évident par rapport à la praxis. Pour cette raison, on dirait avec le père Bria que Stanislaw est un théologien complet, un théologien mystagogue. Bernard Sesbouë affirme dans l'introduction au livre dédié à Karl Rahner que le théologien allemand a su parler à la fois de ses contemporains parce qu'il était pénétré lui-même de l'expérience de Dieu. C'est aussi le cas de Stanislaw, qui, pour comprendre la communion ontologique de Dieu avec la personne humaine, c'est-à-dire la déification, la théosis, se laisse entraîner lui-même dans ce processus. L'anthropologie de Stanislaw. L'anthropologie orthodoxe témoigne d'une théologie qui a mis l'accent sur certains points particuliers, jugés comme essentiels dans le processus du salut. Un des points particuliers de la théologie orthodoxe est qu'elle est très sensible à la théophanie de Dieu, ou la présence active du transcendant dans le mystère de la création, de l'homme, du Christ et de l'Église. D'où il s'ensuit le développement d'une perspective principalement sacramentelle et iconique. Cette perspective saurait être comprise en mettant en lumière son but ultime, la communion de l'homme à Dieu, c'est-à-dire la théosis. Cela constitue vraiment une particularité de la théologie orthodoxe de la néopatristique, qui tend surtout à mettre en évidence que toute l'histoire du salut est orientée vers cette communion personnelle entre le divin et l'humain. Quant à l'anthropologie de Stanislaw, disons qu'elle se meut entre certains coordonnées essentielles qui lui confèrent un aspect particulier. Au centre de sa vision sur l'homme reste le concept de la personne et de la communion, qu'il a très bien mis en évidence et saisi dans la relation, dans leur relation et qui structure toute son anthropologie. Nous essaierons toutefois de mettre en évidence quelques clés de lecture qui pourraient faciliter le contact avec sa perspective anthropologique. Et je veux parler d'une clé cosmologique, ainsi d'une clé christologique, une clé trinitaire et enfin d'une clé ecclésiologique. Je vous prie de m'annoncer quand il me reste encore 5 minutes pour voir. Voilà. Et je n'ai pas apporté avec moi, j'ai pas sur moi mon porte-clé, parce que sinon je pourrais vous présenter plusieurs clés de lecture de Père Stanislaw. Je vous présente justement les clés que j'ai amenées avec moi. Donc la première clé, c'est une clé cosmologique. L'homme en tant que laboratoire de communion. Pour la théologie orthodoxe, le monde en général a une grande signification spirituelle, car il est don de Dieu, appelé à être l'espace d'une immense communion de la créature avec son Créateur. Au sein du mystère du monde, l'homme détient une place centrale étant conçu comme le maillon qui lie la création à Dieu. Il est significatif dans ce sens que notre auteur commence, probablement délibérément, la présentation de la création du monde dans sa dogmatique, dans sa théologie dogmatique, avec la personne humaine. En fait, l'homme, le mystère le plus profond de l'ordre naturel, selon le mot de von Balthasar, est placé au centre de la doctrine de la création de Stanislaw. À cela s'ajoute bien évidemment la forte empreinte eschatologique qui caractérise la pensée de notre théologien. Dans cette perspective, chaque commencement doit être jugé par l'optique de sa fin. C'est grâce à cette méthode que l'affirmation capitale placée tout au début de son chapitre sur la création est la suivante, et je cite, « L'économie de Dieu ou bien son plan pour le monde signifie la déification de la création, qui suite au péché implique aussi sa rédemption ou son salut. » Pour lui, l'homme ne peut pas être conçu en dehors de la nature cosmique. Et cette interdépendance fait en sorte que la nature ne peut pas accomplir son but sans la participation humaine. L'homme est logikos, la tête consciente de la rationalité et de l'unité du monde, et en même temps il dépasse les limites de la nature créée, par sa rationalité et son aspiration à la communion avec Dieu. Pour notre auteur, si le cosmos est empreint de rationalité, l'homme, image de Dieu, est doué en outre d'une raison capable de connaître consciemment la rationalité du cosmos et de sa propre nature, c'est-à-dire être conscient de soi-même. C'est une démarche qui puise beaucoup dans la pensée de Maxime le Confesseur. Et notre auteur arrive ainsi à considérer qu'il serait plus juste de voir l'homme non pas comme un microcosme, mais comme un macrocosme, parce qu'il est appelé à assumer en lui le monde entier, étant capable de le comprendre sans s'y perdre, car il le transcende. Dans cette ligne, le père Henri de Lubac affirme lui aussi qu'il y a, je cite, quelque chose en l'homme, un certain infini de capacités, qui ne permet pas de le confondre avec les êtres dont toute la nature et tout destin s'inscrivent à l'intérieur du cosmos. Pour Stanislas, et le monde est créé pour l'homme et non l'homme pour le monde. Et par conséquent, c'est le monde qui est créé pour être humanisé et non pas l'homme pour être assimilé à la nature créée. Et je cite un terme plus précis pour exprimer le fait que l'homme est appelé à devenir un monde plus grand et celui de macro-anthropos, qui à proprement parler exprime le fait que le monde entier est appelé à s'humaniser, c'est-à-dire à recevoir entièrement le sang de l'humain, à devenir pan-humain, actualisant ainsi l'exigence qui se trouve impliquée dans son être même. De notre côté, il faut souligner dans l'économie de notre étude l'importance d'une autre image de Saint Maxime le Confesseur qui a profondément influencé la pensée de Stanislas. Maxime concevait l'homme en tant que laboratoire, ergastérion, qui tient tout l'ensemble embrassé et qui a une vertu naturelle d'unir par médiation toutes les extrêmes en ramenant toutes choses à Dieu. En tant que laboratoire, l'homme à la mission de transformer, de compléter la création et lui-même. Ce dernier peut multiplier, perfectionner, découvrir et approfondir les virtualités des dons et des sens des personnes et des choses par ses propres pouvoirs spirituels en communion avec les autres. Les choses et les personnes sont, à partir de la création même, des ponts vers Dieu et les autres. Ces ponts deviennent de plus en plus transparents au fur et à mesure qu'on découvre en eux des virtualités et des nouvelles significations, ou dans la mesure de leur transfiguration par les énergies ancrées de Dieu. Grâce à cette perspective anthropocentrique positive de la création, notre auteur arrive à affirmer que la dignité humaine, élevée à l'état de médiante entre Dieu et création, est appelée à devenir ainsi prêtre de toute la création. Car l'homme est l'image et l'organe principal du sacrement de l'union du Logos avec toute la création. Le paradoxe de l'homme, c'est qu'il est être biologique. Je dis être biologique parce qu'on a parlé tout à l'heure de la différence faite par Zizioulas. Pour votre connaissance, c'est bien aussi de savoir que ne fait pas l'unanimité dans l'orthodoxie entre l'être biologique et l'être ecclésial. Mais le père Stanislas, il accentue un fait qui est très important pour nous. Il dit que l'homme est un être biologique avec structure et programme théologique. La création de l'homme de la terre ou de la poussière, c'est-à-dire de la matière préexistante le sixième jour de la création, et du souffle qui vient directement de Dieu, fait en sorte que l'homme est à la fois solidaire avec le monde matériel et dépendant dans son existence du souffle de vie de Dieu. La création matérielle reçoit ainsi une forme et une structure selon l'image de Dieu. Autrement dit, lors de la création de l'homme, la matière créée, la terre, est organisée théologiquement, comme le dit aussi le théologien grec Panayotis Nellas. Dans cette ligne, Stanislas affirme que le souffle de vie, le pneuma ruach, qui fait de l'homme un être vivant, donne à l'homme non seulement la vie biologique, car cette vie est donnée aussi aux animaux qui ne reçoivent pas un souffle de Dieu, mais surtout la vie raisonnable et la vie de communion. C'est la vie spirituelle de l'homme qui prend naissance ainsi. Et je cite, « Dieu, en soufflant dans l'homme, commence à parler avec l'homme. » Dieu se donne du rien à partenir de dialogue, mais dans un organisme biologique, le souffle spirituel de Dieu produit un souffle spirituel ontologique de l'homme, l'âme spirituelle enracinée dans l'organisme biologique, un dialogue conscient avec Dieu et les autres. Et dans la logique de Stanislaw, ce dialogue commencé à la création est destiné à se prolonger dans l'éternité. Il y a toutefois une chose qu'on veut souligner chez Stanislaw, sa manière d'interpréter la conviction en général orientale que même après la chute, il reste dans l'homme une certaine grâce, donc une certaine aspiration pour la communion. Stanislaw comprend et développe cette idée patristique en la transposant dans des catégories de communion. Il souligne ainsi la duplicité de l'image. Celle-ci se maintient dans l'homme même après la chute, mais elle est obscurcie par le péché et ne s'active pas entièrement dans la ressemblance. Même quand l'image s'active, elle peut le faire dans un sens erroné, c'est-à-dire en cherchant l'infini dans les choses finies. Cette idée est reprise par Stanislaw à travers la philosophie de Maurice Blondel. En parlant de l'agir humain, le philosophe français souligne la soif absolue de l'homme qui ne peut pas être satisfait par des choses contingentes. Le perpétuel dépassement humain réclame une fin divine. Il cherche à retrouver sous le symbole des fins bornées le terme infini auquel il aspire. C'est donc parce qu'il, je cite de Blondel, use des biens insuffisants comme s'il était suffisant que l'homme s'endette infiniment, car ce qui est en use en lui est infini, et son malheur est de mettre non le temps dans l'éternité, mais l'éternité dans le temps. Et en développant ces idées, Stanislaw affirme que les passions, attachements infinis à des réalités finies, témoignent de la capacité d'infini du cœur humain. L'homme créé à l'image de Dieu cherche l'absolu, mais cet absolu est une personne. Plus précisément, dans la recherche de l'absolu, l'homme recherche des relations interpersonnelles infinies et éternelles. L'homme ne peut pas se contenter de rester enfermé dans des relations avec des réalités finies. Notre raison et notre cœur aspirent à la communion avec la personne capable d'une relation infinie. C'est cette communion que notre esprit saisit comme étant le sens suprême de la vie. Interprété dans cette arme, l'imago Dei entraîne une conception dynamique de la personne humaine, homo viator, toujours en mouvement, vers la communion totale avec son Créateur. Car seul, je cite encore de Stanislaw, l'éternité d'une communion personnelle avec une source personnelle de vie absolue offre à toutes les personnes humaines l'accomplissement de leur sens, en leur accordant en même temps la possibilité d'une communion éternelle et parfaite entre elles-mêmes. La deuxième clé, c'est la clé christologique. L'homme comme image de l'image. Selon la révélation biblique au fondement même de l'existence, c'est le logos de vie, comme le dit l'apôtre Jean au premier épître. Icon tu teu, image de Dieu. Icon tu teu tu aurato, image de Dieu invisible. Caractère tes hypostases aftu, le replendissement de sa gloire et l'empreinte de sa personne. En lui, toutes choses ont été créées, tout a été créé pour lui et pour lui, toutes choses subsistent en lui. Autrement dit, l'origine de l'existence créée se trouve dans une personne qui a pensé cette existence, l'a créée, la soutient et la conduit vers un but qu'elle connaît. Le logos de vie est aussi le lieu de l'union la plus profonde entre la vie divine et la vie humaine. Le paradoxe de la création, de l'union du créé avec l'incréé est accentué maintenant au monde suprême. Le créateur est créature, Dieu est homme, l'infini devient fini, et ainsi l'horizon infini de la connaissance de la réalité suprême devient transparent pour l'homme. Donc l'humanité assumée par le Logos est devenue le moyen d'unification et de déification de toute l'humanité et de la création. Ainsi, le Christ confirme-t-il le mystère de la personne humaine, en se faisant le fondement intime de son éternité et de son mouvement éternel. Descendant vers les créatures prenant leur forme, Dieu montre toute la valeur qu'il accorde à ce monde. Et je cite de Stanislaï, l'homme dont le Christ prend le visage devient lui-même visage du Christ. Se constitue demeure du Christ. Plus encore, il reflète le Christ. Il devient un Christ. Et dans cette perspective christoforme, l'affirmation d'Olivier Clément selon laquelle le christianisme et la religion de visage prend tout son sens. Cependant, Stanislaï construit son anthropologie christologique dans un contexte trinitaire. Son système anthropologique nous offre une image de l'homme centrée sur le Christ, l'homme parfait, mais en qui nous sommes enfants de Dieu le Père. Il assume la distinction patristique, le Christ image, l'homme à l'image ou selon l'image, dans le sens où l'homme est l'image du Verbe et de ce fait à l'image de Dieu le Père. Configuré à l'image du Fils, les êtres humains sont donc reçus dans la Trinité ouverte, si on voulait emprunter l'expression de Moltmann, parce que par son incarnation, le Christ nous a rendu accessible la communion avec Dieu dans sa forme culminante. Cela signifie pour Stanislaï que l'homme est mis en relation avec la communion trinitaire, est appelé à réaliser sur le plan humain une vie de communion à l'image de la communion trinitaire. C'est comme ça qu'on arrive à l'autre clé qui est la clé trinitaire, c'est-à-dire l'homme comme être de communion. Pour le théologien orthodoxe, l'unité en Dieu repose dans la koinonia divine, dans la communion de personnes divines. Selon Stanislaï, Dieu est le mystère de la parfaite unité de personnes distinctes, la structure de l'amour suprême, non pas un amour de soi, mais amour mutuel et partagé. Car un Dieu unipersonnel n'aurait pas en soi l'amour ou la communion éternelle dans laquelle il voudrait nous introduire nous aussi. Et cette doctrine sociale de la Trinité amène les théologiens orientaux à penser l'être humain comme un être de communion. Si les hommes sont créés à l'image de la Trinité, alors le contexte adéquat pour la juste compréhension de la personne humaine est la théologie trinitaire. Dieu Trinité crée un être dialogique selon sa propre image. Selon Stanislaï, nous devons voir la Trinité comme le fondement ultime et le but éternel de l'être humain qui existe et s'actualise dans des personnes par la communion. L'accent est donc mis sur la communion interpersonnelle, image et participation à la communion trinitaire. Notre auteur explique d'une manière similaire à Karl Barth que même la création de l'être humain comme un couple reflète le caractère communautaire de l'image. Mais Stanislaï va au-delà des énoncés du théologien suisse et affirme que ce n'est pas uniquement la différence et l'union des sexes qui révèlent de l'image, mais plus que cela, c'est-à-dire la vie communautaire de l'homme. La personne et la communion, voilà ce qui tient de l'image. Et à cet égard, il est suggestif de souligner que Jürgen Moltmann, en citant Stanislaï, affirme que le concept de communauté trinitaire appliqué à l'anthropologie n'est pas seulement en mesure de surmonter la solitude narcissique du moi, mais aussi l'égoïsme du couple, de l'homme et de la femme. Et dans cette perspective, l'homme est considéré par sa constitution même un être ouvert pour les autres, et l'individualisme comme une conséquence de la chute. En développant l'idée de Barth de la nouveauté de l'existence personnelle de l'homme comme un vrai vis-à-vis, Stanislaï conçoit la personne comme, je cite, « la réalité avec l'état le plus élevé de l'existence, car elle est consciente de son existence, de l'existence des personnes et des choses. Il est ainsi car elle est comme moi, comme toi ou comme lui, comme une conscience orientée vers une autre conscience. Toi et lui signifient une réponse par rapport à moi. Quand j'essaye de ne pas avoir les autres comme toi et lui, j'amoindris mon existence. Peut-être que dans un jeu, qui s'est habitué de ne pas avoir un tu, réside l'enfer, l'extrême diminution de l'existence. Et selon Stanislaï, rien n'est plus nécessaire à la vie de communion que le don de soi pour les autres. L'homme existe pour une autre personne et lui rend service, mais par là, il s'enrichit lui-même. Cet échange dialogique continuel entre les hommes représente en fait un enrichissement mutuel. Et à cet égard, notre auteur préfère citer à plusieurs reprises l'adage du patriarche Calliste du XIVe siècle qui disait « J'aime donc je suis ». Car il s'agit d'un dépassement de la logique individualiste cartésienne qui met l'accent sur l'amour comme pouvoir de communion. Donc « J'aime donc je suis ». Et finalement, la clé ecclésiologique, je ne sais pas combien de minutes il me reste, ou je passe directement en conclusion. Pour Stanislas, l'Église est une, je cite, « communion d'amour baignée dans les relations de l'infini amour trinitaire. Elle vit dans l'océan tripersonnel de cet amour et de cette vie. Le mystère de la communion entre les personnes se caractérise précisément par ce paradoxe union et diversité. L'amour entre les personnes réalise l'union entre elles, mais en même temps il produit la joie de l'une envers l'autre pour son altérité même, et donc la distinction entre elles. Dans la communion des personnes, chacune reste en même temps une frontière pour l'autre. Chacune porte en soi l'autre, mais en tant que distincte. Dans cette intériorisation réciproque, l'altérité subsiste. Selon la foi chrétienne, l'homme reste défini en tant que tel même dans l'union suprême avec Dieu et dans la participation à l'infinité de Dieu. Ou plus précisément, celui qui croit approfondit au maximum son unicité par la communion avec Dieu. Le Christ nous a laissé un testament prière de l'unité qui suit le modèle de la koinonia trinitaire. Que tout soit un comme toi Père, tu es à moi, et ainsi de suite. En expliquant ce verset, Callistosuer a raison de dire que ce comme trinitaire est vital pour notre salut. Nous, les hommes icônes de la Trinité, sommes appelés à figurer sur la terre le mouvement de la péricorèse de Dieu, reproduisant ici-bas l'amour mutuel qui passe incessamment dans le ciel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc tout d'abord, l'être humain est lié à l'être même de Dieu. Car selon le théologien romain, l'homme agonise quand il est privé de toute communion avec un autre homme, et de plus la communion entre les personnes humaines agonise quand elle ne trouve pas sa source et son fondement en Dieu, personne infinie ou plutôt unité infinie des personnes divines. La personne est par définition un sujet de communion. Elle doit communier à d'autres personnes et elle doit recevoir la communication d'autres personnes. Il ne peut se réaliser intellectuellement et moralement que dans la communion. La relation entre une personne et une autre personne est la seule voie de la réalité et du mystère. C'est l'approfondissement plein d'amour d'une personne dans une autre, et seulement cela procure la vie et la joie. Mais on ne peut pas avoir la révélation de l'autre comme profondeur jaillissante, comme source d'une vie sans limite, que si l'Esprit Saint nous montre l'autre en Dieu, dans le mystère du Dieu personnel qui se révèle. La seule personne dont jaillissent inépuisablement la vie et la lumière est celle du Christ. Et parce qu'il n'y a de communion plénière et inépuisable qu'avec la personne du Christ, et que seulement en Jésus-Christ nous trouvons l'Esprit, je cite, d'une inlassable communion entre les hommes, nous trouvons donc l'Église. Quelques conclusions. Le mystère du monde, le mystère de l'homme, sont définis par le théologien romain comme présence active du transcendant dans leur existence. Le monde est ainsi appelé don de Dieu, sacrement de l'amour de Dieu, lieu de l'immense dialogue entre Dieu et sa créature. C'est là sa plus profonde signification ainsi que sa finalité ultime. Et le monde créé par Dieu reste sacrement de communion d'amour, tant qu'à travers tous les dons, l'homme voit la présence du donateur, qu'à travers toutes les créatures, il voit les appels et les paroles du Créateur. La valeur suprême de tous les dons ne se trouve pas en eux-mêmes, mais dans la personne qui les offre, en vue d'une communion d'amour plus importante que les dons eux-mêmes. Comprise ainsi, la création suscite en l'homme une attitude eucharistique, c'est-à-dire des gratitudes. Macrocosme et laboratoire, roi et prêtre, l'homme est appelé à unir unir et à sanctifier la création en Dieu. Comme le disait Olivier Clément dans la préface d'une traduction qu'il a publiée en français, ici s'affirme dans la pensée de Dmitri Stanilovaï, je cite, « une pénétrante interprétation du thème patristique de l'homme logikos », interprétation qui développe surtout la métaphysique de Maxime le Confesseur. Tandis que les choses sont des images créées, des logis, son logoi, ou qui rayonnent du logos, l'homme comme sujet personnel créé est l'image directe du logos, comme sujet personnel ancré de toutes les logoi du monde. L'homme logikos est donc appelé à déchiffrer les logoi des choses pour les retourner au logos après les avoir marqués de son intelligence et de son amour. Ce déchiffrement est un acte de connaissance synthétique et directe, une intuition spirituelle qui elle-même suscite une rationalité ouverte qui élargit et féconde la compréhension rationnelle du monde. Tout objet rationnellement structuré, écrit le père Stanilovaï, n'est que le moyen d'un dialogue interpersonnel. Par conséquent, le monde en tant qu'objet rationnel n'est que le moyen d'un dialogue tant au niveau de la pensée qu'à celui des œuvres aimantes, entre la personne raisonnable et suprême et la personne raisonnable humaine, ainsi qu'entre celle-ci elle-même. Si nous appliquons cette réflexion à la situation concrète de la vie, il est évident que chaque fois que les choses, les biens, les ressources du monde ne sont pas mises au service de la communion, la vie s'approvit ou se détruit. Lorsque la raison humaine ne se manifeste pas comme chemin de communion, elle n'est plus le logos de vie. Elle bâtit alors les murs de la possession égoïste et invente les armes destructrices de la vie. D'autre part, on voit que bien ancré dans les philosophies existentialistes et personnalistes de son époque, Stanilovaï veut maintenir d'une manière paradoxale une communion où les deux analogies apparemment antagonistes de l'imago Dei, c'est-à-dire celle substantialiste et celle relationnelle. Certes, pour l'auteur romain, l'image de Dieu comme possibilité et désir pour la communion est une qualité ontologique de l'homme. Cependant, l'unique raison de l'existence de l'imago Dei dans l'homme est de rendre possible la communion avec le Créateur. L'homme, image du Christ, est sujet de communion car il est orienté vers les autres. D'autre part, la conception orientale de la continuité nature-grâce amène notre auteur à penser la déification comme étant la réalisation totale de l'homme. L'humanité de l'homme se réalise dans la déification. La sainteté, c'est l'accomplissement de l'humain. Et transposée dans des catégories communionnelles, la personne humaine ne peut pas se réaliser en dehors de la communion avec son Créateur et avec les autres. Fondé sur le principe de communion, le synergisme orthodoxe soutient fermement le fait que Dieu est personnel, qu'il aime sa créature et qu'il l'a créée pour un dialogue éternel dans l'amour. Mais le Créateur n'est pas une seule personne, il est Trinité. Et Callisto Soer disait dans la préface à l'édition anglaise de la dogmatique de Stanilovaï que pour l'auteur romain, l'intersubjectivité divine constitue le modèle et le paradigme de toutes les relations humaines, et plus particulièrement de l'Église. Cette affirmation est juste, car le père Stanilovaï développe d'une manière exemplaire une vision trinitaire de l'homme, c'est-à-dire la personne en communion, créée à l'image du mystère de la parfaite unité des personnes distinctes, qui veut arracher l'homme du XXe siècle à sa solitude angoissante. Dans cette perspective, l'Église n'est que le laboratoire où on travaille la résurrection et la trinitarisation de l'humanité. Créée à l'image de Dieu Trine ou à l'image du suprême mystère de la vie en communion, l'homme est de ce fait un être de communion, c'est-à-dire une vraie personne. Pour lui donner la parole encore une fois, je cite, « Uniquement dans la Trinité comme unité parfaite des personnes non confondues, le caractère de la personne est pleinement assuré. Une personne sans communion n'est pas une personne. » Merci.